Il conserve le silence pendant que le médecin s'entretient avec le centre de l'essai clinique. Il discute de son transfert. Il est également question de prévenir ses parents. L'infirmière revient vérifier plusieurs fois qu'il est calmé et il fait semblant de s'endormir pour être sûr qu'elle lui fiche la paix. Lorsqu'elle quitte la chambre quelques minutes plus tard, il rouvre les paupières. Le médecin a disparu. Il ne reste que Joanne, nerveuse, qui danse d'un pied sur l'autre. Il passe en position assise. Il se sent déjà un peu moins ankylosé.
« Comment on fait ?»
chuchote-t-il en gardant le regard fixé sur la porte.
« Ils vont revenir. Le médecin est simplement parti appeler tes parents depuis son bureau. »«
Et l'infirmière ?»«
Je sais pas. »
Joanne est nerveuse. « Tire-toi. »«
Quoi ?»
Il répète entre ses dents.
« Tire-toi. » On se fera moins repérer si on part chacun de notre côté. Commence à partir et je suivrai dès que je peux. Mais...
Elle fixe du regard la sangle à son poignet.
Desserre-la, mais laisse-la attachée. Si jamais elle revient, elle ne verra peut-être pas.
Joanne est sceptique. Il se voit obligé de la brusquer.
Joanne, desserre-moi ça et tire-toi. Comment on se rejoindra?
Je sais pas. Il y a pas un café dans les rues alentours ou des toilettes publiques, n'importe quoi pour qu'on se donne rendez-vous. Il a toujours le regard rivé sur la porte. Joanne murmure.
Oui, il y a un petit parc en face de l'hôpital.
Parfait, je t'y retrouve dès que je peux. Elle est toujours hésitante. Elle desserre la sangle avec des gestes mal assurés.
Tu devrais peut-être partir d'abord?
Il secoue la tête avec fermeté. Il a retrouvé tous ses esprits maintenant. Non, si je disparais et que t'es là, ils sont capables de te faire arrêter.
Tu crois?
Si c'est toi qui pars, j'aurais qu'à dire que tu es parti t'acheter à manger ou boire un café. Je réussirai à filer ensuite. Des bruits de pas se font entendre dans le couloir et Joanne se redresse vigoureusement.
D'accord.
Les bruits de pas s'éloignent. Ils attendent quand même quelques secondes pour recommencer à chuchoter.
« Je prends ton sac !»
déclare Joanne.
« Quoi ? Non ! Tu marcheras plus vite si t'as pas ton sac !»
Il veut protester, mais il se rend compte qu'il lui fait perdre son temps en discutant.
« D'accord, mais laisse-moi une tenue. Je peux pas partir avec cette chemise de nuit. »
Elle acquiesce. Elle s'agenouille, commence à fouiller dans son énorme sac à dos, en extirpe un t-shirt noir et un short beige.
« Ça ira ?» Tes chaussures sont là.
Merci. Tiens, remets mon carnet dans le sac. Elle s'exécute. Et ton sac à toi? Elle semble réfléchir quelques secondes.
J'ai dû le laisser dans la salle d'attente en bas.
Il est pris d'un certain malaise.
T'es sûr que ça va aller? Je peux m'occuper de mon sac. Sauve-toi et récupère le tien, c'est le plus urgent. Non, c'est bon.
Elle se relève, accroche le sac sur son dos.
Je file.
Ouais, tire-toi vite.
Le parc, Émile.
Elle a peut-être peur qu'il oublie.
Le parc.
Il la regarde disparaître de la chambre, son énorme sac sur le dos. Le parc, le parc, le parc. Il est mort de trouille à l'idée d'oublier. Il se le répète en boucle, inlassablement. Le parc, le parc, le parc. Qu'est-ce qu'il va se passer s'il oublie leur lieu de rendez-vous? S'il oublie qu'il doit se sauver. Non, c'est impossible. Sa mémoire a bugué, oui, mais maintenant il a récupéré tous ses esprits. Il est alerte. Il n'oubliera pas. Malgré tout, il se répète « le parc, le parc ». Il ferme les paupières très fort quand l'infirmière entre dans la chambre. Il essaie d'adopter une respiration lente et tranquille. Il espère qu'elle ne verra pas la sangle desserrée, ni le petit tas formé par ses vêtements sous la couverture. Elle fait le tour du lit, replace une de ses électrodes sur sa poitrine. Il entend le médecin l'appeler depuis le couloir.
Alice ?
Oui ?
Vous pouvez venir ?
Elle soupire.
J'arrive !
La voix du médecin ajoute.
Ses parents veulent savoir comment il va.
Son cœur remonte dans sa poitrine. Maintenant, la vague de panique le submerge. Ses parents au bout du fil. L'infirmière qui va revenir. Ils voudront lui parler.
Non, c'est maintenant ou jamais. Le parc, le parc, le parc. Il arrache les électrodes, attrape les vêtements sous la couverture. Le parc. Il n'a pas le temps de s'habiller. Il enfile le short, chausse ses baskets. Tant pis pour la chemise de nuit, il l'enlèvera dehors. Le parc. Son cœur cogne contre sa poitrine. Ses mains sont moites. Il passe la tête par l'entrebâillement de la porte. Il faut qu'il parte de toute façon. Il voit une forme au bout du couloir. Il ne sait pas s'il s'agit de l'infirmière. Il fonce. Le parc. Le couloir, le panneau qui indique l'ascenseur. Il marche en s'efforçant de ne pas avoir l'air de fuir. Il s'exhorte au calme et à la lenteur. Il faut qu'il ait l'air naturel. La forme au bout du couloir a disparu dans une chambre. Il accélère le pas. Le parc. L'ascenseur met une éternité à arriver. Il a chaud. Il se sent étourdi. Ding. L'ascenseur s'ouvre. Il est vide. Il appuie sur zéro plusieurs fois. Les portes se referment. Il en profite pour enfiler son t-shirt noir par-dessus la chemise de nuit. Avec ses mains tremblantes, il rentre les pans qui dépassent dans son short. Ding. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Niveau 2. Il se trouve face à un couple. Il se retient pour ne pas avoir l'air totalement irrité.
Vous montez ou vous descendez?
On descend, au rez-de-chaussée.
Moi aussi.
Le couple monte. Les portes de l'ascenseur se referment. Dans le miroir, il aperçoit son visage livide, le pansement blanc qui recouvre une bonne partie de son crâne. Ding, rez-de-chaussée, enfin. Le hall est bruyant, il y a du mouvement. Il fonce à grandes enjambées vers la porte vitrée. Le parc, le parc, le parc. La chaleur extérieure lui coupe le souffle. Il est aveuglé par la lumière du soleil. Il doit être midi. Le soleil est haut dans le ciel. Il traverse devant un taxi, essaie de regarder tout autour. Il voit la route, le feu tricolore, un restaurant en face, le parking de l'hôpital. Il ne voit pas de parc. Une voiture le klaxonne. Un homme crie
« Vous pourriez regarder avant de traverser !»
Il atteint le trottoir d'en face et aperçoit enfin une tache verte. Des arbres là-bas. Il a presque atteint la grille du parc lorsqu'il entend la voix de Johan derrière lui.
« Émile !»
Il se retourne brusquement. Johan arrive en courant derrière lui, un sac sur le dos, un autre accroché sur le devant à sa poitrine.
« J'étais derrière toi !»«
Qu'est-ce que t'as fait tout ce temps ?»
J'ai dû passer aux objets perdus pour récupérer mon sac.
Bon sang.
Il est à deux doigts de défaillir de soulagement en la voyant derrière lui avec leurs deux sacs. Ils ont réussi, tous les deux. Mais ils ne doivent pas rester plantés là. Il vaut mieux qu'ils s'éloignent. Il lui reprend son sac à dos.
Viens, on s'arrêtera à discuter plus loin.
Il marche au hasard dans la ville, d'un pas vif. Le but est de s'éloigner de l'hôpital. Pour le reste, ils n'ont aucune idée de leur destination.
On est où ?
Je sais pas exactement.
Comment ça ?
On a été rapatriés en hélicoptère.
Tu plaisantes ?
Non, on était en pleine montagne.
Il essaie de ne pas perdre pied. Il a été inconscient tout ce temps. Ça a bien dû durer 2 ou 3 heures. Il ne s'est même pas aperçu qu'on le transportait en hélicoptère. C'est complètement dingue. Il se retourne pour essayer d'apercevoir l'hôpital, sa devanture. Il a de bons yeux, heureusement. Il parvient à lire « Centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre ».
Je crois qu'on est revenu au point de départ.
Johan tourne la tête vers lui, interrogatrice.
Comment ça ?
On doit être à une 20aine de kilomètres d'Artigues et du camping-car.
Il n'arrive pas à sonder son visage, à savoir si elle est soulagée par la nouvelle ou au contraire déçu. Il ajoute
« Je suis désolé, je voulais pas écourter notre escapade avec sac à dos. »
« Tu plaisantes, c'est rien.
On repartira. »
Elle secoue la tête.
« Pas tout de suite, il faut que tu te reposes maintenant. »
Il passe devant ce restaurant grill qui propose des burgers américains. Il y a cette odeur de viande grillée et de friture. Il y a l'air climatisé de la salle qui vient leur lécher les pieds sur le trottoir. Émile est toujours pâle. Johan n'est pas certaine qu'il tiendra très longtemps avec son gros sac à dos s'il ne mange pas quelque chose. Ils échangent un regard et ils comprennent qu'ils sont d'accord.
On entre ?
Ouais.
il s'assoit dans le fond de la salle, dans un espace masqué par un paravent. Il commande une double ration de frites. Johan choisit un croque aux légumes, Émile un hamburger à deux étages. En attendant leur plat, ils ne disent rien. Ils sont aussi épuisés l'un que l'autre. Émile se demande s'ils n'ont pas trop marché ces derniers jours. Lorsque les plats arrivent, ils se jettent dessus et se mettent à parler la bouche pleine.
« Les médecins ont dit pourquoi j'avais fait ce malaise ?»«
Ils ont parlé de l'altitude, de la fatigue physique, mais ils ne savaient pas pour ta maladie. Tu crois que ça peut être la maladie ?»«
C'est possible. »«
T'en avais déjà fait ?»«
Ouais. »
Il en a fait plusieurs avant que sa mère ne réussisse à le traîner à l'hôpital. Mais jamais d'aussi important. Il reprenait connaissance au bout de quelques minutes.
« J'ai jamais été inconscient aussi longtemps. »
« La fatigue a peut-être aggravé les choses. »«
Peut-être. » »«
On va rester quelque temps au même endroit, non ?»
Il la regarde manger goulûment. Elle se lèche les doigts. On dirait qu'elle a été affamée pendant des jours. Ils n'ont peut-être pas mangé assez.
« Ouais, c'est possible. »
« Le temps que tu te reposes ?»«
Ouais, t'as raison. »
Le serveur vient retirer leur plat. Ils ont mangé comme deux goinfres. Ils acceptent cependant de voir la carte des desserts et choisissent des glaces.
« Et pour mes points de suture ?» reprend Émile en plantant sa cuillère dans sa coupe glacée.
« Oui ?»
Elle a des petites traces de glace à la fraise au coin des lèvres.
« Tu sais si j'en ai beaucoup ? Si on va devoir les faire enlever ?»
Elle s'essuie la bouche avec sa serviette.
La blessure au coude n'est pas trop grave d'après ce qu'il disait. 3 ou 4 points. À la tête, c'est plus important.
Il la regarde avec anxiété.
Tu pourras t'occuper de ça ?
Elle hausse les épaules puis hoche la tête.
Je crois.
Il prend un ton plus léger pour demander.
Tu dois bien avoir quelques remèdes à base de plantes.
Et ça fonctionne. Elle esquisse un sourire.
Ouais. Et puis, j'ai déjà retiré pas mal de points.
Il n'ose pas lui demander pourquoi. Ils reprennent la route, l'estomac lourd, mais l'esprit plus léger. Johan lui fait mettre une casquette pour protéger son crâne et masquer son pansement. Il retire sa chemise de nuit aux couleurs de l'hôpital quelques mètres après le restaurant et la jette dans une poubelle. Il ressort son guide des Pyrénées.
Tu sais où on va ?
Interroge Johan.
Ouais, c'est bon.
Ils ont 20 kilomètres à parcourir, mais l'après-midi est déjà entamé, et vu l'état de santé d'Émile, ils décident qu'ils s'arrêteront pour la nuit dans un petit village du nom de Baudéan. Le guide indique qu'il compte 392 habitants et que l'altitude y est de moins de 600 mètres. Ça sera parfait pour se rétablir un peu. Le chemin est agréable, en descente et plutôt ombragé. Ils traversent de nombreux petits villages et hameaux et parviennent à remplir leurs gourdes. Cependant, quand ils entrent dans Baudéan à peine 2 heures plus tard, Émile est épuisé. Baudéan est un minuscule village en cœur de vallée, entouré de verdure. La majorité des maisonnettes sont construites en pierre. Une petite église surplombe le village. C'est une église gothique à l'allure étrange comme ils n'en ont jamais vu. Le clocher d'ardoise est encadré de 4 clochetons et coiffé d'une flèche en éteignoir. Elle ressemble davantage à un petit château de conte de fées. Ils doivent traverser le village et s'égarer un peu dans la verdure pour trouver un coin tranquille pour établir leur campement à l'ombre des arbres. La tente est rapidement montée et Johan décide de partir faire un tour en quête de quelques plantes pour les plaies d'Émile. Il s'adosse à un arbre et ouvre son carnet noir.
17 juillet, 18h. Luz Saint-Sauveur en bordure de sentier au pied du château de Sainte-Marie.
Le temps s'est couvert alors qu'on quittait le lac de la Glaire. Pourtant, le lever du soleil avait été splendide.
Il n'a toujours aucun souvenir de ces 3 derniers jours. Il a pensé que ça reviendrait dans l'après-midi, lorsqu'il aurait repris ses esprits, lorsque la peur panique de son réveil se serait totalement dissipée en même temps que les calmants. Mais non, rien. C'est toujours le même trou noir. Ils étaient assis au bord du lac. Ils allaient replier leurs affaires et partir. Puis plus rien.
18 juillet, 21h. Gèdre, campement improvisé au pied du ruisseau. Ce village est splendide. Après une nuit à grelotter dans nos duvets humides, c'était génial de se remettre en route. Pourquoi est-ce que ces souvenirs se sont bloqués ce matin-là au bord du lac? Que s'est-il passé après? J'adore l'église de Gèdre, la fontaine sur la place du village qui représente une femme assise caressant un loup. J'adore le ruisseau qui traverse le village et j'adore par-dessus tout ces petits moulins en vieille pierre. Il a beau relire ces lignes qu'il a écrites lui-même, rien ne revient. Ça risque d'être le cas de plus en plus souvent. Ça risque d'empirer. Il faut à tout prix qu'il continue de tenir son carnet. Il faut à tout prix qu'il écrive toutes ces petites lettres à ses parents, à Marjo, à Renaud, avant de les oublier tout à fait. Il ne se rend pas compte tout de suite qu'il a envie de pleurer. C'est tellement inhabituel pour lui de pleurer. C'est l'épuisement sans doute. C'est d'être adossé contre cet arbre, avec ce foutu carnet à la main et ce trou noir qui ne s'éclaircit pas. C'est l'ironie de la situation. Parce qu'il en a adressé des prières silencieuses, pendant des mois et des mois, à un dieu, à des anges, à des forces occultes, à n'importe qui. Il en a adressé des prières qui disaient « Si je pouvais tout oublier, si je pouvais oublier qui je suis ». Laura était partie et il avait l'impression que son existence prenait fin. Il ne voyait qu'une façon de pouvoir continuer à vivre, l'oublier, oublier qu'il l'avait aimé. Alors il avait répété ses prières. Si je pouvais tout oublier. Aujourd'hui, il aimerait pleurer comme un enfant, tout seul contre un arbre. Il n'a plus envie d'oublier. C'est trop tard.